écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes avec Ange David et je suis ravie de le rencontrer. Moi, je le vois, mais pas vous, comme d'habitude d'ailleurs. Mais là, cette fois-ci, c'est un peu particulier puisque comme quelques autres interviews, nous sommes obligés d'enregistrer à distance puisque Ange David est en Côte d'Ivoire. Bonjour Ange David, comment vas-tu ?
Bonjour Anne, ça va très bien. Et toi, Anne, comment tu vas ?
Ça va très bien. Est-ce que vous êtes toujours en confinement, vous les Ivoiriens ?
On a une sorte de confinement, mais on est dans un retour à la vie, si on peut dire la vie normale, c'est pas évident. On met beaucoup plus d'accent sur les mesures barrières, sur le port du masque et autres. Donc on est toujours dans la période de crise sanitaire quand même, faut le dire.
Ange David, tu es un des responsables de Grain. Donc Grain, la définition officielle hein, sur votre site internet, vous définissez comme une petite organisation internationale qui soutient la lutte des paysans et des mouvements sociaux pour renforcer le contrôle des communautés sur des systèmes alimentaires fondés sur la biodiversité. Grain, c'est un projet consacré initialement surtout aux semences et c'est aujourd'hui une organisation internationale qui défend les mouvements paysans et la lutte pour la souveraineté alimentaire. Et Grain fête ses 30 ans. Félicitations.
Merci beaucoup.
Alors, je suis le travail de Grain depuis plusieurs années. J'ai été assez impressionnée parce que vous vous définissez comme une petite organisation international quand même, mais en fait vos analyses, vos rapports, vos alertes sont reconnues par les professionnels hein, sur l'ensemble de la planète pour leur sérieux, leur fiabilité, pour le travail de fond que vous réalisez depuis toutes ces années. Nous allons donc parler des sujets sur lesquels vous travaillez et qui en fait nous concernent tous. À vos débuts, on pouvait croire que vous vous battiez pour les petits paysans de par le monde, mais en fait il y a aujourd'hui une prise de conscience un peu partout sur la planète du fait que ce pourquoi vous luttez nous concerne tous pour notre alimentation, pour défendre les ressources, les terres, la biodiversité, le climat. Sur votre site, on peut lire globalement l'objectif du programme de Grain est d'aider le public à mieux comprendre les forces qui façonnent les systèmes alimentaires mondiaux et locaux et leur impact sur l'agriculture et la sécurité alimentaire et de soutenir les mouvements sociaux et les organisations de la société civile à atteindre la souveraineté alimentaire. Ce qui vous mène à vous battre contre les accaparements de terres, les plantations de palmiers à huile dans les formes les plus abusives, on va en reparler, les accords de libre-échange pour la protection du climat, des semences paysannes, de la souveraineté alimentaire. Et vous dénoncez régulièrement les abus des grandes entreprises qui nuisent aux petits paysans. J'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs en lisant vos rapports, parce que nous, évidemment, comme ce sont souvent des grandes entreprises du nord de nos pays ici, on n'est pas très informés sur leurs pratiques et leurs attitudes. Et donc, tous ces abus que vous dénoncez nuisent aux petits paysans, mais aussi à la chaîne alimentaire et à la planète. Et dans le même temps, Grain soutient de manière très active les alternatives fondées sur les communautés, comme l'agroécologie et la souveraineté alimentaire. Et vous êtes présent et actif en Afrique, mais aussi en Amérique latine, en Asie. Donc j'aimerais que tu nous présentes, après cette présentation très officielle, et voilà que toi tu nous présentes un petit peu Grain, la façon dont toi tu y es entré, et nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Qui êtes-vous ?
Merci, je suis Ange David Bahimé, comme tu l'as dit, et je suis avec Grain depuis quelques années maintenant. Et comme tu l'as décrit, nous sommes une petite organisation internationale, et parce qu'effectivement, nous sommes une petite organisation disséminée un peu partout à travers le monde. On a des collègues en Asie, on a des collègues en Amérique latine, en Afrique, et évidemment, et aussi quelques collègues en Europe, mais qui ne font pas un travail de recherche ou un travail basé sur ce qu'on peut appeler le fondement de notre appui, puisqu'en Europe, nous n'avons pas de programme que nous exécutons. Donc, nous avons effectivement des collaborateurs, nos collègues qui y sont, mais ce n'est pas pour faire un travail de recherche, parce que, comme tu l'as dit, nous sommes dans la recherche et aussi dans le travail de mobilisation communautaire avec les organisations paysannes, avec les mouvements sociaux. Donc, c'est cela que je peux ajouter en thème de présentation. Et effectivement, nous célébrons cette année les 30 années d'existence de l'organisation. C'est vrai qu'avant, si je peux dire, ces 30 ans, les uns et les autres, les collaborateurs étaient engagés sur des luttes concernant les semences, comme tu l'as mentionné, et d'autres questions. Donc, avant que, de façon officielle, Grain ne naisse, les membres fondateurs étaient déjà engagés dans des luttes paysannes, dans des luttes sur la question agricole. Voilà un peu ce que je peux ajouter. Et oui, nous sommes contents d'être avec vous pour ce podcast et on espère qu'on va arriver à faire passer le message concernant la souveraineté alimentaire, qui est une des questions clés sur laquelle nous travaillons.
Et en fait, justement, qu'est-ce que c'est le moment de départ de Grain ? Quelle était la motivation pour tous ces gens qui étaient, comme tu le disais, déjà engagés et qui, à un moment, se sont rassemblés et ont voulu unir leurs forces venant de plusieurs continents, en fait, pourquoi ?
La porte d'entrée de ce travail-là, il y a plus de 30 ans, a été effectivement la question de la semence. Il y avait le génétique. Ou si tu veux le génétiquement modifié qui devenait pour certains la norme vers laquelle il fallait aller. Et donc, il y a eu ce mouvement où les fondateurs, ceux qui ont lancé la machine, comme j'ai dit, et qui étaient engagés déjà dans divers groupes, dans diverses structurations, dont je ne vais pas mentionner le nom ici, mais qui ont compris qu'on était pour l'humanité à une étape où la question du génétiquement modifié devenait la norme et beaucoup de forces, c'est-à-dire surtout venant du monde de la recherche, définissaient ou voulaient que la question agricole soit autour de ces questions-là. Donc, il y avait des laboratoires qui s'engageaient. On était dans cette étape de ce que les gens appelaient la révolution verte. Pour certaines, il fallait y aller à fond, il fallait que l'alimentation mondiale soit, entre guillemets, fabriquée dans les laboratoires. Donc, toute cette question a poussé les pères fondateurs, a poussé les pionniers de Grain à se poser des questions parce qu'on se retrouvait dans une approche où, avec la révolution verte, on disait que c'est le tout chimie, c'est le tout pesticide, c'est le tout herbicide. Et de l'autre côté, on voyait que c'est, pour nous, en tant qu'environnementalistes, ce n'était pas vraiment l'orientation qu'il fallait avoir. Et ça poussait à ce travail de réflexion, ça poussait à ce travail de mobilisation parce qu'il fallait aussi se mobiliser parce que d'un côté, on avait les accords qui étaient mis en avant par, si je peux dire, l'ancêtre de l'OMC avec tous les accords commerciaux qui se prédestinait à orienter l'alimentation pour les années à venir de millions d'individus. Et on voyait que dans le même temps, ça n'allait pas résoudre la question, non seulement de la précarité, non seulement de la sécurité alimentaire, parce que c'est vrai qu'on est passé du concept de la sécurité alimentaire à la souveraineté alimentaire. Mais dans un premier temps, la problématique était effectivement de savoir est-ce que le fait d'aller en laboratoire pour verrouiller des semences, pour faire en sorte que les paysans deviennent de plus en plus dépendants de la semence qu'il va acheter auprès de Monsanto ou auprès d'un semencier, est-ce que cela allait lui permettre d'être vraiment dépendant? La perte de contrôle de la qualité même de ses produits, la perte de la nutrition, des valeurs nutritives, des semences, tout cela, c'était des questions sur lesquelles il fallait rapidement s'interroger. Et c'est ce que Grain a fait il y a 30 ans avec d'autres acteurs dans cette mobilisation. Plus tard, on est arrivé sur des sujets comme la question du foncier. Je pense qu'on en discutera par rapport aux accaparements de terres et autres. Mais le fondement a été cette interrogation de quel est l'avenir qu'on destine à l'agriculture et à l'alimentation. J'ai oublié peut-être de mentionner le fait que même pour certains, il fallait aller vers une industrialisation, une mécanisation. Et dans le même temps, on ne se posait pas les questions sur qui contrôle, si on peut dire, ces facteurs de production agricole, qui les contrôle, est-ce aux mains des paysans? Et c'est pour cela qu'on insiste, parce que pour nous, l'approche de baser tout ce travail-là sur les petits paysans, sur la volonté des petits paysans est essentielle, parce que c'est cela qu'il faut mettre au cœur, et non pas les multinationales ou les entreprises qui sont visiblement là pour le profit. Donc, ce sont ces questions-là qui ont amené les collègues, il y a 30 ans, à lancer cette machine, à lancer ces analyses, à lancer cette réflexion, cette collaboration avec les uns et les autres. Ouais.
Et en fait, il y a 30 ans, donc c'est 1990. Oui. Et en 1990, vous étiez vraiment quand même précurseur, parce que là, aujourd'hui, on a du recul pour constater, bon, maintenant, ce sont des constats vraiment largement admis, là, que les sols deviennent stériles avec ce type d'agriculture, hein, qui sont la monoculture et tous les intrants chimiques qui viennent détruire toute la biodiversité dans les sols, et puis l'érosion génétique par rapport aux plantes et tout ça. Et en 90, il y a 30 ans, alors je crois que l'Inde était un peu en avance sur vous pour constater les dégâts. Je crois qu'en Inde, la révolution verte a été imposée avant l'Afrique. En tout cas, les dégâts ont été énormes, avec beaucoup, beaucoup de suicides de petits paysans. Ça m'a étonnée, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces questions-là, de voir qu'on mettait encore assez récemment des programmes au niveau international, je pense à la Nouvelle Alliance, pour imposer encore ce type d'agriculture maintenant en Afrique, alors que tout le monde sait, tout le monde a vu les dégâts qu'on a pu constater déjà en Inde.
Oui, oui, comme tu le dis, effectivement, l'Inde avait déjà, si on peut dire, été frappée par cette vague de révolution verte qui était l'hymne national, si on peut dire, ou l'hymne international chanté par ceux qui voulaient nourrir le monde ou nourrir l'humanité sans vraiment faire attention à la qualité ou à la gestion environnementale. Parce que à long terme,
oui. Enfin, même à moyen terme, même on peut dire, parce que ça a été très rapide.
Effectivement, très rapide. Et effectivement, dans un second temps ou dans une extinction, parce que en Afrique, la question de la révolution verte, effectivement, va être un peu plus tard, après ce qui s'est passé en Asie. Mais le continent aussi a été effectivement frappé. Quand vous parlez de la Nouvelle Alliance, ce sont des programmes un peu plus récents, mais déjà dans les années 90 ou après la vague qui a frappé l'Asie et l'Inde, et avec l'introduction de tous ces mécanismes de la chimie, des pesticides et autres, tout ça dans la coton, dans le secteur du coton, on a vu effectivement.
Et puis de rendre les paysans dépendants financièrement,
voilà,
de ce système.
La politique qui était derrière était des politiques qui étaient basées sur un profit que les entreprises voulaient avoir. Et tout ce qu'on a eu à développer comme produit, tout ce qui a été fait comme programme était venu pour aller dans ce sens-là. Et on a vu très bien quelles étaient les entreprises Rockefeller et tous ces genres de fondations. Et donc, plus tard, avec Agra, le développement de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, on a vu effectivement un boom ou une accélération. Donc, peut-être plus tard, avec des programmes comme la Nouvelle Alliance, qui sont assez récents et sur lesquels on continue de mobiliser les mouvements et autres, puisque la Nouvelle Alliance est venue un peu plus tard. Et dans la Nouvelle Alliance, avec le G8, on a vu clairement que la question du foncier et la question des semences étaient les deux piliers sur lesquels ces programmes-là se sont positionnés, avec un certain nombre d'institutions et aussi avec le choix d'un certain nombre de pays vraiment stratégiques pour l'Union européenne, parce que ça, c'est un programme poussé par l'Union européenne, la question de la Nouvelle Alliance, avec d'autres partenaires, mais essentiellement parce qu'on sait comment aussi ces pays sont sous une forme de tutorat où ils sont cooptés par le programme de la Nouvelle Alliance pour mettre en œuvre un certain nombre de politiques agricoles et foncières et semencières et autres. Donc, effectivement, l'Afrique a été impactée un peu plus tardivement par rapport à l'Asie, mais il n'en demeure pas moins qu'elle a été extrêmement frappée. Et c'est pour nous aussi un tournant, parce que 2008, par exemple, peut-être qu'on en discutera plus loin, 2008 avec les différentes crises alimentaires ou les différentes émeutes de la faim qui ont eu lieu en Afrique, a mis l'accent sur la question du foncier, sur la question de la terre, sur la question des accaparements de terre, qui a été vraiment aussi un moment très crucial pour Grain en tant qu'organisation, pour apporter sa contribution à ces échanges et à la mobilisation au niveau du continent africain.
Oui, parce que vous donnez vraiment à voir des choses qui souvent restent invisibles pour nous, dans le reste du monde, on va dire. Alors, je voudrais expliquer à ceux qui nous écoutent, parce que là, c'est vrai qu'on parle, on est rentré tout de suite dans le vif du sujet, mais peut-être il faut rappeler pour les personnes qui ne sont pas forcément très familières avec toutes ces appellations et ces pratiques. Déjà, on va commencer par le commencement. Donc, la souveraineté alimentaire, qu'est-ce que ça représente, la souveraineté alimentaire pour laquelle vous vous battez? En quelques mots, réexpliquer le
concept. D'accord, la souveraineté alimentaire est un concept qui a été mis en place par la Via Campesina, ce grand mouvement mondial paysan. Et pour faire simple, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tentatives de définition ou autres, mais pour faire simple, c'est-à-dire que c'est une question qui va au-delà de la question de la sécurité alimentaire. Parce qu'on peut avoir la sécurité alimentaire à travers l'importation alimentaire, quelque chose qui est vraiment mauvais, si on peut le dire, pour les petits paysans. Parce que pour un paysan mozambicain ou un paysan sénégalais, c'est important pour lui de pouvoir produire de la nourriture de façon saine et pouvoir mettre à la disposition des citoyens ou de ses concitoyens, de la population. Mais si nous basons la question de l'alimentation simplement sur la disponibilité en termes de mettre de la nourriture sur le marché, mais on pense aussi à la question de la possibilité d'avoir financièrement la possibilité d'avoir accès. Donc, il y a la question du coût financier et autres. Et au-delà de cela, nous, en parlant de souveraineté alimentaire, nous pensons qu'il est important pour, par exemple, un peuple. Si je prends, par exemple, les Bantous ou je prends, par exemple, les Fons au Bénin, de pouvoir avoir accès à une nourriture qui, culturellement, est en phase avec leurs besoins, de façon nutritive, est en phase avec leurs attentes et de façon culturelle, rencontre leur assentiment, leur spiritualité. Vous prenez, par exemple, un peuple que, par exemple, au Ghana, parce que je suis resté plusieurs années au Ghana à travailler avec les partenaires de Grain. Si vous donnez, par exemple, du foufou, c'est-à-dire c'est une nourriture locale, à un Ashanti, vous lui faites autant de bien. Et le foufou est fait à base du manioc et à base de ces matières-là. Vous lui rendez plus service que, par exemple, de lui faire consommer des spaghettis ou peut-être de la pizza. Donc, en fait, j'essaie de l'expliquer de façon simple pour dire que la question de la souveraineté alimentaire est une question qui va au-delà de la sécurité alimentaire, c'est-à-dire permettre d'avoir de la nourriture disponible, permettre d'avoir de la nourriture de qualité. Et elle va au-delà dans le sens où un peuple va consommer ce qui est en phase avec ses aspirations spirituelles, ses aspirations moraux et ce qui le met vraiment dans une condition pour être vraiment à l'aise. Donc, vous n'allez pas demander à un Akan, les Akans, c'est un peuple qu'on retrouve en Côte d'Ivoire, qu'on retrouve au Ghana, de par exemple consommer uniquement le riz qui n'est pas sa nourriture première, sa nourriture de base, c'est plutôt l'igname. Donc, pour lui permettre d'avoir accès à ce bien-être que lui procure la nourriture, à ce bien-être que lui confère le fait de cuisiner, vous allez prendre en compte tous ces paramètres qui sont des paramètres sociaux. Donc, la souveraineté alimentaire ne s'arrête pas au fait de pouvoir importer. Et malheureusement, pour les politiques agricoles africaines, c'est ce qu'on a pu constater. Et on a une sécurité alimentaire qui est basée sur l'importation alimentaire. Ça pose beaucoup de problèmes comme la question climatique. Ça pose beaucoup de problèmes comme les questions, effectivement, de comment est-ce que la nourriture est produite, c'est-à-dire le volet environnemental, le volet utilisation de pesticides et d'autres intrants chimiques qui impactent aussi la qualité nutritive des produits. On se retrouve, peut-être qu'on en discutera aujourd'hui, de la question de l'alimentation. Comment est-ce que, quand vous parcourez un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, vous voyez vraiment cette expansion des supermarchés qui vient avec des habitudes alimentaires vraiment qui ne sont pas vraiment celles des populations. Et comment est-ce qu'il y a cette facilité-là à travers, par exemple, les accords de partenariat économique qui permettent facilement ces importations, qui permettent facilement ce positionnement-là à travers le fait qu'il y a une levée énorme des droits de douane et d'autres facilités qui sont accordées à ces multinationales-là de venir contrôler le marché alimentaire. Et on voit très bien comment est-ce que des habitudes alimentaires sont en train d'être détruites et comment est-ce que de façon locale on arrive à aussi avoir une montée de l'obésité parce que c'est aussi lié à nos jeunes enfants avec tout ce qu'on appelle peut-être des programmes publicitaires ou des programmes qui viennent faire la promotion de cela. Et on va voir que des populations, des communautés vont laisser des denrées ou des céréales comme le mil, qui sont vraiment très nutritifs, comme le taro, tout ce genre d'alimentation pour aller se tourner vers un type d'alimentation qui est effectivement, dans le sens profond du terme, est vraiment vide en termes nutritifs et qui va créer cette obésité-là et transformer ultra transformé.
Voilà. Donc, avec des additifs qui, eux, ne sont pas bons pour la santé et avec les substances qui sont bonnes pour la santé, nutritives, qui ne sont plus présentes parce que dans les transformations, jusqu'à ce que ça arrive dans un petit sachet, ça perd tout meurt. Alors, on sait aujourd'hui que des paysans sont tués chaque année en résistant pour contrôler leurs terres. On sait aussi que il y a Global Witness, je crois, qui sort un rapport tous les ans sur le nombre de défenseurs de l'environnement qui sont assassinés dans le monde, enfin de ceux qu'on connaît, qui sont répertoriés. Donc en 2018, il y avait un peu plus de 160 défenseurs de l'environnement qui ont été assassinés. Est-ce que vos luttes, votre résistance dérange plus qu'avant ?
Oui, nos luttes dérangent. Et récemment, on a un militant, un ami de lutte au Mali, par exemple, M. Massa Kone, qui travaille sur la question du foncier, qui travaille sur la question des semences, la souveraineté alimentaire, et qui est le porte-parole de la Convergence. La Convergence, c'est un mouvement qui a été mis en place dans lequel nous contribuons à apporter de l'analyse, à apporter de la mobilisation, qui a été, ça a été peut-être encore une menace de trop, mais qui a été mise à rude épreuve parce qu'il a été visité, si on peut le dire, par des personnes non identifiées qui ont emporté des clés USB, qui ont emporté. C'est vrai qu'il y a des enquêtes qui sont ouvertes sur la question, mais pour ce militant-là qui lutte avec les Maliens sur la question du foncier à travers la CEMAT, qui est cette convergence-là pour travailler sur la question des accaparements de terres et pour permettre aux paysans de continuer à pouvoir avoir cette dignité-là, a été, si vous voulez, dans le viseur de personnes qui, pour l'instant, sont non identifiées, mais on voit effectivement que c'est l'engagement qui dérange. Et l'année dernière, au Congo, nous avons des partenaires, nous avons des amis, nous avons des frères avec qui nous travaillons aussi sur des questions d'accaparement de terres qui ont été dans des conditions de sécurité très mauvaises. On a même eu le décès de Joël, qui était un jeune militant d'une organisation qui travaillait aussi pour pouvoir permettre aux uns aux autres d'avoir une dignité, qui a perdu la vie. Donc, pour ajouter effectivement à ce que tu dis, ce travail-là devient de plus en plus difficile pour des personnes qui ne demandent qu'à avoir des conditions de vie normales, si je peux dire, qui sont dans des communautés, qui n'arrivent plus à avoir accès à la terre pour pouvoir produire ne serait-ce que l'alimentation de base, qui sont dans des communautés où on voit des entreprises venir prendre d'énormes hectares de terre qui les empêchent de pouvoir se nourrir. Et ces personnes-là deviennent en retour des esclaves dans ces plantations, parce que c'est souvent de cela qu'il s'agit. L'agriculture...
Oui, alors explique-nous justement, je voulais te demander aussi pour celles et ceux qui ne n'ont pas forcément entendu parler de ces histoires d'accaparement de terres, hein, qui au niveau des ONG maintenant, c'est une appellation qui est malheureusement très connue, et il y a beaucoup de monde maintenant qui travaille pour identifier ça. Je pense à Land Matrix, aux bases de données. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire les accaparements de terres? Qu'est-ce que c'est?
Pour faire simple, la question de l'accaparement de terres, pour nous, on la voit en termes de contrôle des terres, parce que dans beaucoup de définitions académiques et autres qui ont été faites, les gens partaient par exemple sur le principe que on peut qualifier d'accaparement de terres, par exemple, une acquisition de terres, une acquisition foncière qui va par exemple au-delà d'un certain nombre d'hectares. Par exemple, certains ont dit, si 100 hectares par exemple sont récupérés par une multinationale ou même, parce qu'il y a un accaparement de terres aussi local et national qui se fait, est récupéré par exemple par une élite, on ne va pas considérer cela parce que c'est minime.
C'est-à-dire que des gens s'approprient un espace géographique qui n'était pas à eux,
mais qui, aujourd'hui,
pour différentes raisons, soit il n'y a pas de titre foncier, soit il n'y a pas vraiment de législation, soit il y a des titres fonciers, mais ils se les approprient quand même.
Je ne dirais même pas par rapport à la question du titre foncier, parce que ce n'est pas toutes les terres. Par exemple, si vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, malgré tout ce qui est fait par ceux qui, si vous voulez, sont pour les titres fonciers, de façon culturelle et de façon coutumière, il y a déjà une législation. Même si elle n'est pas reconnue par le pouvoir colonial dans le temps, ou aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas dans le pouvoir colonial reconnu par les tests, par exemple, juridiques, ce qui n'est pas reconnu peut-être par les tests juridiques, il y a une gestion où il y a une organisation du foncier qui est faite. Je m'explique. Aujourd'hui, si vous prenez, par exemple, la loi foncière de la Côte d'Ivoire, dans la même loi, vous allez voir la référence à ce qu'on peut appeler le droit moderne, disons-le comme ça, mais aussi le droit coutumier. Et donc, c'est la transformation pour certains des droits coutumiers dans l'immatriculation qui est cette notion qui a été introduite pour aller vers les titres fonciers, ce qu'on appelle la titrisation, qui va permettre, par exemple, de donner des droits ou de ne pas donner des droits. Mais on n'a pas eu besoin de cela dans beaucoup de pays, dans beaucoup de coutumes, pour pouvoir gérer le foncier. C'est-à-dire que le foncier est géré de façon coutumière. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des intérêts commerciaux, il y a des intérêts liés au marché du foncier, qui sont venus s'ajouter, mais on ne peut pas dire que l'accaparement de terres vient se faire, par exemple, dans un espace donné parce qu'il n'existe pas de titre foncier. Le titre foncier, pour beaucoup de pays ou pour beaucoup de communautés, n'est pas celui qui détermine de la gestion première du foncier, parce qu'il y a des chefs de village, il y a des chefs de terre. Dans beaucoup de nos différents villages en Afrique, vous allez voir des chefs de terre qui sont souvent différents du chef de village, qui ont la connaissance de à qui appartient cet espace de terre, à qui revient, par exemple, cette portion de plantation. Mais je vais rapidement revenir sur la question de l'explication de ce qu'on va appeler accaparement de terre. Parce qu'il y a, plusieurs formes d'accaparement de terre. Il y a même des formes aujourd'hui qui sont des formes déguisées d'accaparement de terre. Dans les premiers moments, qu'est-ce qu'on avait constaté? On avait constaté que l'Afrique, pour certains, avait été, et aussi l'Asie, hein, et certaines parties, L'Amérique latine aussi, avait été considérée par un certain nombre de personnes ou d'acteurs ou d'États. Parce qu'on a vu des politiques étatiques qui allaient dans le sens d'aller dans d'autres pays pour pouvoir contrôler des terres. C'est-à-dire, par exemple, des pays du Golfe arrivent dans certains pays africains et prennent 10 000 hectares de terres. Ça peut être directement un soi-disant investisseur, c'est-à-dire un homme privé, mais qui est soutenu, par exemple, par des fonds de son pays, ou ça peut être directement une coopération bilatérale entre deux pays. Un pays, par exemple, européen, ou un pays de l'Émirat qui vient et qui essaie de dire, OK, nous, on souhaite avoir 10 000 hectares de terre. Donc, on avait cette forme-là dès le début. Mais je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, par exemple,
les 10 000 hectares de terre sont des terres vierges ou
généralement, c'est des terres où les gens vivent. Et je souhaite quand même, parce que quand vous voyez une terre qui est, d'après certains, qui est vierge, c'est-à-dire parce que vous n'avez pas vu de culture, de bananes ou de cultures de rein, de bon, on fait pas du raisin partout, mais de ligname, par exemple des cultures. Ne vous dites pas que c'est terre vierge. Il y a pas de terre vierge. C'est un mensonge de dire que les terres sont vierges en Afrique. Il faut y aller, il faut en prendre et autres, tout ça. Il n'y a pas de terre vierge qui existe. Ces terres-là sont utilisées de différentes façons, parce que vous voyez une terre sur laquelle non, il n'a rien été peut-être planté, mais ça peut être le lieu de culte spirituel d'une tribu ou de... Donc, il n'y a pas de terre vierge. Je pense que ça a toujours été un mensonge et qui a été vendu à des personnes externes au continent en disant, allez en Afrique, il y a des terres. Non, on n'a pas assez de terres. Et puis, on le dit toujours, l'Afrique est surpeuplée. Donc, si on est surpeuplé, ça veut dire qu'on n'a pas assez de terres. Donc, il n'y a pas de terres disponibles. Il faut arrêter avec cette idéologie disant qu'il faut aller prendre les terres en Afrique parce qu'il y a des terres vierges. Il n'y a pas de terres vierges. Ces terres-là sont occupées de différentes façons.
Voilà, ça, c'est la conception occidentale.
Donc, il
n'y
a pas de terres vierges. Donc, le contrôle des terres qui était organisé de façon étatique, c'est-à-dire un État qui vient, par exemple, voir un autre État en Afrique pour discuter, pour prendre des terres. Souvent, ces terres sont occupées par des gens. On a vu des déguerpissements de population où vous vous levez un matin, vous avez votre petit champ de bananes, vous avez votre petite case et il y a des caterpillars qui viennent, qui commencent à vous déguerpir. On l'a vu au Mozambique où des communautés avaient des plantations sur des terres, des communautés avaient des constructions, des villages, mais cette communauté a été déguerpie pour pouvoir céder ces terres-là parce qu'elles ont été, par exemple, acquises par un investisseur ou acquises par une entreprise souvent qu'on ne connaît pas. J'ai visité des communautés au Mozambique dans le cadre d'un projet qu'on appelait le Pro Savannah où ces communautés-là étaient là, vivaient paisiblement, mais elles ont été évincées pour pouvoir permettre la culture, par exemple, de produits d'exportation. Donc, on s'est retrouvé dans ce schéma-là. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, comme on peut le dire, il y a une nouvelle forme. On a connu aussi les accaparements de terres menés par des élites. Et aujourd'hui, par exemple, je prends le cas d'une plantation aujourd'hui aussi qui est en train d'être cédée à un autre investisseur, mais qui était des plantations, par exemple, des anciennes plantations Unilever au Congo, qui ont été cédés, par exemple, à une première société qu'on appelle Feronia, qui est en train de, présentement, où je vous parle, en train de la céder à d'autres intérêts. Mais, par exemple, pour ce cas-là, on s'est retrouvé dans une nouvelle forme d'accaparement de terres, où ce n'était plus uniquement un certain nombre d'acteurs qu'on pouvait identifier, mais où on s'est retrouvé avec l'implication d'agences, ou si on peut l'appeler, d'institutions financières internationales. C'est-à-dire, vous avez la Proparco, qui est présente dans l'architecture. Vous avez CDC, qui est un peu comme l'équivalent côté britannique de l'AFD. Vous avez d'autres intérêts. Donc, l'AFD, vous retrouvez dans une sorte d'accaparement de terres avec de nouveaux acteurs. Et pour nous, c'est un accaparement de terres parce qu'il s'agit toujours de continuer de contrôler des terres par des forces, ou je peux le dire, des acteurs externes pour faire une agriculture généralement qui... une agriculture de monoculture pour l'exportation. Donc,
oui, voilà, parce qu'on se dit, mais pourquoi vouloir acheter des milliers d'hectares de terres en Afrique? Il y a encore d'autres endroits où il reste des terres. Donc, qu'est-ce qu'ils font sur ces terres?
Et il y a beaucoup de choses. Il y a la spéculation foncière. Vous allez toujours voir que ces personnes-là prennent le contrôle d'énormément de terres, souvent qui n'arrivent pas totalement ou entièrement à utiliser, et souvent les gars dans des concessions. On voit que les entreprises ont de grandes concessions de terres, mais vous allez voir qu'elles n'arrivent pas, parce que aussi pour beaucoup d'entreprises qui avaient vu cela comme un nouveau deal ou bien une nouvelle forme d'investissement, c'est vrai qu'on n'en a pas assez mis l'accent dessus, mais dans les années après la crise ou les émeutes de la faim, beaucoup d'acteurs avaient vu la question du foncier comme une zone refuge où ils pouvaient investir de l'argent pour pouvoir éventuellement, pour certains, faire de l'agriculture, mais pour d'autres, c'était juste des spéculations financières. Donc, il y a tout ce imbroglio ou toute cette différence dans la question foncière qu'il est important de faire. Et comme on le dit, beaucoup d'acquisitions, beaucoup d'accaparements de terres sont généralement faites pour être destinées à des cultures d'exportation, c'est-à-dire que l'EVA, c'est-à-dire le palmier à huile, des monocultures, le teck, on voit énormément de plantations qui sont faites et au détriment des communautés qui aspirent à peut-être faire de l'agriculture pour pouvoir nourrir la communauté, nourrir le pays, nourrir l'Afrique. Et ces contrôles, souvent, là, viennent avec aussi beaucoup de violence, beaucoup de criminalisation, parce que tu l'as mentionné, mais on a vu effectivement beaucoup de communautés qui refusent de céder les terres parce qu'elles souhaitent continuer à faire la production agricole pour nourrir le monde qui sont tués. On a vu des accaparements de terres où il y a mort d'hommes parce que les communautés continuent de demander à pouvoir contrôler ces terres-là. Donc voilà un peu aujourd'hui la question de l'accaparement de terres, à quel niveau on se retrouve. Et malheureusement, les réponses que beaucoup d'États ou beaucoup d'acteurs ou beaucoup d'institutions financières ont développées, c'est la question de dire qu'il faut juste un petit foncier pour pouvoir sécuriser la terre, ce qui n'est pas vrai. Et on est en train d'observer une recrudescence ou une montée en puissance de nouveaux types d'acteurs dans le foncier, qui sont les banques, qui aujourd'hui sont présents à dire « Ok, vous pouvez acquérir un titre foncier qui est individuel, qui va vous permettre, par exemple, d'avoir accès à un crédit financier. » Alors qu'on sait très bien que la capacité de remboursement pour beaucoup de paysans, parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de la réussite ou, si je peux dire, du succès en agriculture, on va se retrouver dans un chemin, et on l'a vu dans un certain nombre de pays où les banques vont devenir, si on ne fait pas attention, celles qui vont contrôler les terres en Afrique bientôt. Parce que c'est bien facile de dire, faites-vous aider pour avoir un titre foncier, ensuite vous pourrez aller auprès de la banque prendre un crédit pour pouvoir investir en agriculture. C'est beaucoup le message qu'on voit maintenant, par-ci et par-là, dans beaucoup de pays africains. Et on est vraiment inquiet de cela, parce qu'on se demande comment est-ce que l'agriculture va pouvoir être gérer ou va continuer à exister si demain ce sont les banques qui contrôlent la capacité de production, parce que la terre c'est le premier outil de production, c'est l'élément primordial. Et donc c'est des vrais problèmes d'inquiétude, et on continue de suivre la question des accaparements de terre parce que le nouveau visage où il y a une mutation des premiers types d'accaparement de terre tels qu'on les avait connus au tout début des années 2008.
Oui, parce qu'il y avait eu, si je me souviens bien, aussi le sujet des agrocarburants.
La production, ouais.
Qui étaient des politiques qui avaient été mises en place ici.
Les quotas, il y avait eu des quotas.
En nous vendant les agrocarburants comme l'avenir, hein, au niveau écologique, pour utiliser moins de pétrole dans nos réservoirs d'essence. Et ça a été encore une fausse bonne idée, on peut dire, puisque je me souviens avoir lu des articles à l'époque sur le fait que, justement, des grosses multinationales acheter beaucoup de terres, voire accaparer des terres en Afrique pour planter je crois que c'était du maïs, hein, par rapport aux agrocarburants.
Oui, l'utilisation.
En tout cas, tout ce qui pouvait servir à devenir le nouveau pétrole. Donc, sur ces terres, on ne cultivait plus des choses qui allaient être mangées. C'était un détournement, en fait, de la culture des céréales. Et du coup, il y avait même ça se répercutait sur les cours de la bourse. Donc ça, est-ce que ça va mieux ou est-ce que les problèmes sont toujours les mêmes par rapport à ça?
Non, on ne peut pas dire que ça va mieux, parce que quand vous regardez, et parmi les produits que vous avez cités, il y a aussi le palmier à huile ou l'huile de palme, qui est aussi destiné à être utilisé dans une certaine mesure pour pouvoir produire du carburant. Donc, malheureusement, les chiffres aussi sont difficiles à être actualisés. Il n'y a pas toujours de transparence sur cette question, mais le problème demeure. Et généralement, ce que nous disons, c'est qu'on ne peut pas utiliser les produits qui sont destinés à nourrir. Vous avez parlé du maïs, vous avez parlé d'autres produits alimentaires. Donc, qu'on veut utiliser pour faire de l'éthanol ou d'autres produits qui vont être utilisés comme combustible. Donc, on ne peut pas, pendant que des peuples sont en quête ou souhaitent avoir le contrôle des terres pour faire de la production alimentaire pour la consommation, destiner ces produits agricoles alimentaires pour pouvoir faire marcher l'industrie et faire fonctionner les voitures. C'est indécent, c'est immoral.
Il y a les voitures et puis il y a aussi tout ce qui va servir à nourrir les animaux dans les usines d'élevage intensif. Là aussi, je pense à l'Amérique latine, le soja qui sont surtout destinés, alors que dans des pays aussi où la population a encore faim et où des surfaces de terre immenses sont utilisées pour produire des choses, pour nourrir des animaux, pour produire notre viande, surtout dans les pays du Nord. Et en fait, c'est en plus une surproduction, puisqu'on n'a pas besoin de manger autant de viande ici.
Effectivement. Donc, et ça, c'est vraiment un problème aussi qui grimpe. Comment est-ce qu'aujourd'hui, pour pouvoir fournir le marché en viande et autres, il y a toute cette restructuration ou toute cette organisation au détriment de la santé, parce que les questions aussi de consommation de viande, de production d'animaux et autres, tout ça, sont aussi en lien avec la question de la santé, aussi avec la question des émissions de gaz à effet de serre, dans la mesure où ce n'est pas comme on le voit ou comme on peut le constater en Afrique, où par exemple les animaux sont aussi utilisés dans tout le système agricole, où il faut, mais là les animaux sont juste si je peux dire faits pour pouvoir être consommés. C'est-à-dire en Afrique, vous allez voir par exemple une femme qui a une vache, elle va l'utiliser pour permettre de pouvoir faire le travail agricole, préparer la terre. Donc, l'utilisation de l'animal est dans une durée de vie plus étendue. Et tout le bénéfice de l'utilisation dans la biodiversité de l'animal, des chèvres par ici, de la vache par ici, tout ce qui est utilisation pour pouvoir faire du compost ou pour pouvoir amener la terre à être très utile et fertile, on ne le voit pas dans ce qu'on va appeler les fermes à animal, où l'animal, souvent même comme on le dit pour nous en Afrique, l'animal ne voit même pas le jour, ne voit pas le soleil, il est juste mis là, il va passer peut-être pour les poulets 45 jours ou 30 jours à juste être là, à manger et tout ça. Et on l'a bien vu aussi avec tout ce qui est développement des épidémies, tout ce qui est développement d'un certain type de maladie. Donc, c'est vraiment important aussi de souligner ce fait-là. Et que ce modèle industriel alimentaire ou ce modèle industriel concernant la gestion des animaux et tout ça, un modèle qui n'est pas fait pour le bien-être des animaux et aussi est vraiment quelque chose qui, environnementalement, a un coût trop élevé pour la planète.
On a parlé tout à l'heure des semences paysannes. J'ai vu passer dans vos actualités récemment une info par rapport au fait que les citoyens et citoyennes du monde se sont réunis, je crois que c'était au mois d'avril, pour s'opposer à la propriété intellectuelle sur les semences et partir à la reconquête des systèmes alimentaires locaux et de la biodiversité agricole en promouvant leur restauration.
Oui, je pense que c'est, je ne dirais pas une vieille, mais une ancienne lutte qui continue d'exister, puisque c'était autour des questions de l'OMC, avec toutes ces questions de propriété intellectuelle et tout ça, contre lesquelles on a lutté et contre lesquelles on continue de lutter. Parce que pour nous...
Là, c'est par rapport à... nationales qui veulent...
Oui, il y a le brevetage, le brevetage du vivant, il y a le contrôle des semences. Je l'ai dit au début, il y a tout ce qui est contrôle de la semence dans la mesure où on veut pouvoir permettre aux paysans d'être dans un système de dépendance, c'est-à-dire on va stériliser la semence de sorte à ce que chaque année, le paysan va se retrouver à aller dans la boutique ou dans la pharmacie, comme si on allait dans la pharmacie pour payer chaque fois la semence, alors que les semences depuis des millénaires ont été utilisées, ont été partagées. Et ça vient aussi avec toutes les réglementations qui sont en train de s'installer dans nos pays, où ça devient criminel de pouvoir donner la semence à son frère ou à son cousin ou à son voisin. Toute cette législation semencière qui est en train d'être mise en place dans pas mal de nos pays et qui découle des accords, des différents accords commerciaux, des accords de partenariat économique ou même de la nouvelle alliance et tous ces mécanismes, toutes ces politiques-là. Et donc, on est en train de voir cela, le contrôle des semences par des semenciers. Ils ont apporté ce qu'ils ont appelé les catalogues pour pouvoir classifier et mettre en place un système de contrôle de la semence pour pouvoir la faire gérer par le monde industriel, disons-le comme ça. Et une des choses qui est aussi importante de relever, c'est la question de la criminalisation, parce que il y a une forte criminalisation qui arrive avec ces nouvelles politiques foncières, semencières, excusez-moi, où les paysans vont être amenés à se retrouver devant des tribunaux parce que simplement ils veulent continuer d'exister ou de pratiquer l'agriculture comme ils l'avaient toujours pratiqué, en se partageant les semences, en travaillant sur les semences, en multipliant les semences. Et donc cette vague de pouvoir mettre un accent sur la semence est vraiment à encourager dans la mesure où sans semences, effectivement, la pratique agricole sera impossible. Et on le voit clairement, toute la politique ou toute la force qui est derrière le contrôle de ces semences-là est encouragée et favorisée par des multinationales, par différents acteurs qui se cachent et qui veulent continuer à faire du profit sur la question semencière. On l'avait évoqué au début, oui. Et toute cette politique est partie aussi de la révolution, la soi-disant révolution verte, avec les différentes étapes que cela a pu connaître. Et donc, on assiste à cela. Et c'est vraiment aussi le lieu d'interpeller les paysans et leur dire que sans semences, ce n'est pas possible d'exister. Et il faut continuer à préserver les semences paysannes, à les multiplier, à les partager. Je pense que ces actes de résistance-là vont pouvoir permettre à l'agriculture de continuer d'exister. Parce qu'on ne peut pas vouloir réduire le monde agricole a cette dépendance-là aux semences qui sont hybrides, qui sont génétiquement modifiées ou qui sont contrôlées par un certain nombre de stérilisations, de méthodes qui ne permettent pas de pouvoir faire l'agriculture comme on l'a toujours connue. Il est insensé de se dire que chaque année, le paysan, pour pouvoir faire le maïs ou pour pouvoir faire l'igname, va être emmené à aller payer la semence. Non, la semence a toujours été partagée, a toujours été le fondement culturel et spirituel de nos pays. Donc, il faut continuer à permettre cela et non pas à chercher à contrôler ces semences juste pour le profit d'une poignée de multinationales ou d'une poignée d'individus.
Mais eux, leur argument est de dire que ces semences donnent des récoltes plus abondantes, plus résistantes et qu'au final, les agriculteurs vont pouvoir gagner plus d'argent ou avoir plus de choses à consommer sur le terrain. Lutter contre ça, c'est que vous avez constaté que c'était pas... Le message n'était pas si clair que ça dans
non,
les faits.
Non, parce que ce qu'on a toujours constaté, ou ce qui est facile, et tu fais bien de le dire, parce que même pour la question climatique, les fausses informations qui ont été véhiculées étaient de dire que, étant donné qu'on est dans un contexte de changement climatique, il faut aller vers, par exemple, des OGM ou aller vers des semences qui ont été améliorées ou qui ont été transformés, parce que cela va permettre et tout ça. Mais on se rend compte permettre l'adaptation. Alors que ce qu'on a toujours vu, c'est que le paysan ou la semence va s'adapter à son environnement. C'est-à-dire qu'il y aura un moment d'adaptation qui peut effectivement peut-être ne pas permettre en année une d'avoir peut-être le meilleur résultat. Mais ce qu'on voit avec ce qu'on va appeler les semences génétiquement modifiées ou les semences améliorées et qui est malsain, c'est que cela vient avec tout un package qui a été, un paquet technologique qui a été fait où on va utiliser énormément d'intrants chimiques, disons-le comme ça, pour pouvoir englober tout ce qui est pesticides, tout ce qui est chimique et qui va continuer à donner du profit à des industriels. Donc, la semence, si elle n'avait pas été modifiée ou elle n'avait pas été déstabilisée, allait toujours, après un moment d'adaptation lié aux conditions environnementales, aux conditions climatiques et tout ça, allait se réadapter au nouvel environnement et allait pouvoir. Donc, c'est comme ça que des semences ont été gardées depuis des millénaires. Mais comment comprendre aujourd'hui que la biotechnologie ou toutes ces soi-disant avancées viennent, récupèrent les semences et vont, par exemple, les modifier. Et on arrive à une existence de ces semences-là qui ne peut qu'être liée à des intrants chimiques, à différents types d'apports. Et on voit visiblement que c'est une quête vers le profit qui apporte cela. Donc, les différents arguments, effectivement, ils vont dire que ces semences-là sont plus productives, mais cette productivité-là ne peut exister que si elle est accompagnée de tout ce qui est package technologique, c'est-à-dire les fertilisants et toutes sortes. Et la question aussi de leur valeur nutritive se pose. La question de leur valeur nutritive se pose parce que...
Et puis de l'efficacité dans le temps, puisqu'apparemment, au bout de quelques... Parce que d'un côté, si je me fais l'avocat du diable, c'est vrai que toute la nature s'adapte, s'est adaptée toutes les transformations qui sont sur la planète. Par contre, les transformations qu'on vit actuellement ne sont pas naturelles. Elles sont beaucoup plus rapides. Et en fait, c'est ce qu'eux donnent comme argument, c'est que l'échelle dans le temps est trop rapide et que la nature ne va plus pouvoir s'adapter. Par contre, les autres arguments dont j'ai pris connaissance aussi par rapport à leur façon de se défendre avec ça, c'est que dans le temps, ça ne fonctionne pas non plus, puisque cette méthode avec tout ce package, comme tu dis, puisque très vite, ça crée des sols stériles. Donc, il n'y a plus de biodiversité, il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus de tous les nutriments, les milliards de petites choses qui invisibles à l'œil nu qui font qu'une terre est vivante, finissent par... Les terres sont mortes. Donc, on peut créer complètement hors sol une agriculture intensive avec, en ajoutant tout un tas des composants pour essayer de recréer la vie. Mais
effectivement, ça reste artificiel. Très cher. Et généralement, le coût environnemental n'est pas pris en compte dans cette destruction de la biodiversité. Ils essaient juste, c'est-à-dire les partisans de cette approche-là, à éviter de mettre effectivement sur la table la question du coût environnemental, du coût sanitaire. Et je l'ai dit, du côté nutritionnel de ces produits-là au finish, on voit comment est-ce que non seulement dans l'utilisation des pesticides, de nombreuses maladies apparaissent, la stérilité, pas mal de produits, comment ces produits-là sont nocifs pour l'environnement. Ils ne le disent pas assez. Ils voient juste ou ils essaient de mettre juste en avant le fait qu'il faut nourrir une population de plus en plus grandissante. Mais ils ne disent pas qu'effectivement, pour nourrir une population de plus en plus grandissante, il faut laisser les terres être utilisées pour la production agricole et non pas la destiner, par exemple, à du tech. Non pas la destinée à par exemple, à l'EVA, le bois de teck, effectivement. C'est toutes ces questions-là qu'il faut poser. Et c'est trop facile pour ces personnes-là de donner l'argument du fait que non, la nature est arrivée à saturation et le niveau d'adaptation n'est pas aussi rapide qu'on le veut. Ce sont des arguments qui ne tiennent pas.
Et puis, il y a un autre dans les effets secondaires et les effets délétères de tout ce système et ce type d'agriculture intensive déséquilibre les écosystèmes. Alors, on a parlé des sols, effectivement, et de cette biodiversité qui meurt. Et puis, à partir du moment où les insecticides, les pesticides, apports chimiques pour booster cette agriculture, comme on booste dans l'élevage intensif les animaux, ça a des conséquences puisque en faisant disparaître des populations d'insectes, et ça on le voit ici aussi en France maintenant, par voie de conséquence, les oiseaux qui se nourrissent des insectes disparaissent aussi puisqu'eux ne peuvent plus se nourrir. Et on voit des déséquilibres apparaître. L'aspect, évidemment, on est en plein dedans des pandémies puisque des modifications profondes, structurelles dans les écosystèmes qui font que les déséquilibres, par exemple aussi sur les insectes, il y en a qui disparaissent. Et du coup, comme dans la chaîne alimentaire, tout ce monde-là est merveilleusement organisé, mais on voit d'autres populations qui, elles, deviennent envahissantes.
Non, effectivement.
Et ça, je crois que vous prenez ça en Afrique avec... des invasions aussi d'un côté, d'insectes.
Effectivement, énormément. On l'a connu de plus en plus cette année et ces dernières années des invasions de plus en plus de criquets. La corne de l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique de l'Est, avec le Kenya, l'Ouganda, ont vraiment été éprouvés. Et
en Inde aussi.
Oui, Népal, l'Asie, cette partie-là. Effectivement, le Yémen. Le Yémen aussi qui a été touché. Et donc, je suis parfaitement d'accord. Et c'est ce qu'on n'arrête pas de le dire. La question de la biodiversité, et on l'a vu avec COVID, est quelque chose qui est interdépendant. On ne peut pas impunément créer des déséquilibres et ne pas s'attendre à des résultats. Et aujourd'hui, la question de la biodiversité doit être vraiment la question clé pour la survie de l'humanité. On ne peut pas juste pour un profit économique fait passer par perte et profit la gestion, par exemple, des sols, la gestion, par exemple, des vers de terre, la gestion, par exemple, de toute cette dynamique-là qui permet la régénération. On voit malheureusement dans nos pays de plus en plus d'espaces ou de forêts qui sont détruites au profit des expansions, par exemple, de plantations et autres. Mais cela, effectivement, va avoir un impact sur les pluies, va avoir un impact sur la qualité des sols.
Sur les pluies,
sur la qualité des sols, parce que c'est énormément de produits chimiques qui sont utilisés dans cette agriculture industrielle. Et donc, quand les pluies vont devenir de moins en moins présentes, effectivement, on va être amené à des avancées ou des présences de savanes dans un certain nombre d'endroits qui vont nous emmener vers une désertification à long terme. Donc, il y a cette interdépendance, cette interrelation entre les différents éléments. On détruit les terres d'un côté et on détruit les forêts d'un côté et on essaie, dans une politique qu'on essaie de mettre en place, de reboiser. Mais un reboisement n'est pas équivalent à une forêt détruite. Les arbres plantés ne sont pas des forêts, ce sont des arbres plantés. Donc, il y a toutes ces dynamiques et toutes ces questions-là qu'il faut mettre sur la table et dire que l'avenir de la planète, l'avenir de l'humanité trouve son expression ou sa justification dans la biodiversité. On ne peut pas, dans des politiques d'utilisation massive d'intrants ou de produits chimiques, détruire les éléments de la nature les plus essentiels qui permettent la fertilité des sols. On a parlé des vers de terre, on pourrait en discuter pendant de longues heures. Comment est-ce que leur contribution à la fertilisation de nos sols est importante et comment ces éléments-là sont en train de disparaître. Donc, la biodiversité doit être protégée dans un strict regard de la survie de l'humanité et non pas en faisant des calculs économiques en disant que on peut effectivement y aller parce qu'on a besoin de ressources. On l'a vu et la pandémie de COVID nous le dit. On ne peut pas occulter le fait que on peut bien se passer de voyager 365 jours dans l'année pour ne serait-ce que éviter un peu d'émissions de gaz à effet de serre pour que la planète se sente bien. Et je pense que c'est peut-être des idées qu'il faut mettre dans les débats. Il faut un moment où l'humanité essaie d'arrêter sa course effrénée vers le fossile. Nos humanités ou nos vers les énergies fossiles. La crise a carrément monté qu'à arriver un moment, on peut vraiment permettre à la nature, à la planète de respirer en essayant effectivement de mettre, de couper un peu cette course effrénée vers l'industrie fossile et autres. C'est possible pour le bien-être de l'humanité, pour avoir une qualité d'air à respirer dans nos pays. Vous passez à Dakar, vous passez à Abidjan, vous passez dans un certain nombre de capitales africaines, c'est difficile de respirer. Et les maladies qui viennent, les maladies respiratoires qui montent, en Asie
aussi. Hein.
Je maîtrise mieux la réalité de l'Afrique, malheureusement. Et donc, c'est des questions, effectivement, qu'il faut avoir à l'esprit.
Beaucoup de... Enfin, là, c'est monté très vite en puissance, hein, la mobilisation des jeunes autour de la planète par rapport au climat, et qui rejoignent pas mal de vos préoccupations et des luttes que vous menez depuis 30 ans. On a vu un petit buzz sur les réseaux sociaux il y a quelques mois avec une jeune femme activiste. Est-ce que c'est éthiopienne?
Ougandaise, je pense. Vanessa Nakate.
Non, oui.
Elle est ougandaise, voilà. Ou kenyane, je pense bien.
Je crois qu'elle doit être ougandaise. Qu'elle est kenyane.
Elle est ougandaise.
Tu as dû voir passer ça, une photo de groupe à la suite de je ne sais plus quelle mobilisation pour le climat. Il y avait une photo de jeunes femmes activistes avec évidemment Greta Thunberg et quelques autres. Et la seule qu'on a reniée sur la photo, c'était la jeune femme africaine, noire. Est-ce que ça a des résonances aujourd'hui, tout ça, chez les jeunes autour de toi, là où tu es? Est-ce que tu sens, ou est-ce qu'il y a d'autres préoccupations plus urgentes qui font que ce n'est pas forcément aussi important? J'ai vu aussi, là, tout récemment, que toutes ces jeunes, surtout des jeunes femmes, hein, il y a aussi évidemment beaucoup de jeunes garçons, mais évidemment avec Greta en tête, soutenaient le fait qu'elles aimeraient voir reconnu le crime d'écocide. Il y a beaucoup de gens qui se battent depuis assez longtemps aussi pour que ça ait une reconnaissance officielle de ça, ce qui serait un grand pas aussi. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe en ce moment?
Non, la crise climatique en Afrique est une réalité et on ne peut pas l'occulter parce que elle est liée aussi à la question du développement. La question climatique aujourd'hui, dans l'existence ou dans la réalité qu'on a maintenant, est partie de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer que changement climatique ou la crise climatique, et je l'ai évoqué un peu en avant, est liée par exemple à la question des importations alimentaires. Ça peut peut-être être déconnecté, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, pour des pays qui sont import dépendants, comme les nôtres, et où, par exemple, la crise de COVID nous a montré que un certain nombre de pays ont dit, par exemple comme la Russie, ont dit nous on va plus exporter le blé quelque part, on va garder le blé que nous on a pour pouvoir nous nourrir. Et que va-t-il arriver des pays qui aujourd'hui, comme le Sénégal, ne pour un Sénégalais passer une journée peut-être sans manger du pain devient impossible. Le blé qui est utilisé, parce que la grande majorité du pain n'est pas aussi avec un apport de nos produits locaux, c'est le blé par exemple en grande partie. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de pays comme le Cameroun où on utilise d'autres éléments, mais principalement c'est le blé. La crise de COVID nous a montré qu'un certain nombre de pays ont dit que nous n'allons plus exporter, par exemple, le riz, parce qu'on va garder le riz. Les pays asiatiques ont dit on va garder notre riz parce qu'on ne sait pas où on s'en va. Oui. La Russie a dit on va garder notre blé. Donc, pour des pays comme nos pays qui dépendent de l'importation, la question de la crise climatique, elle est présente parce que notre développement ou le développement du continent africain, qui, disons-le, l'Afrique est un continent qui émet moins, parce qu'on est entre 2 et 4% maximum des émissions de gaz à effet de serre, mais qui, en retour, l'impact est catastrophique ou énorme. Vous avez vu récemment au Mozambique les inondations. Vous avez vu, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les invasions de criquets. C'est vrai. Peut-être de façon directe, les gens vont me dire que c'est des phénomènes naturels et tout ça, mais ce sont des phénomènes qui impactent la capacité alimentaire de nos pays parce que les criquets, effectivement, vont dévaster, vont détruire les champs. Et aujourd'hui, ces questions de pollution et ces questions d'émissions de gaz à effet de serre, effectivement, aggravent la crise climatique. On voit comment au Sénégal ou au Bénin, dans un certain nombre de pays, la question de l'eau, qui est directement aussi liée à la question climatique, se fait de plus en plus. Et les femmes subissent triplement ou doublement ou triplement le fardeau de la question de l'approvisionnement en eau des différents ménages. Donc, pour dire le fardeau, le poids énorme de la question d'aller chercher de l'eau, parce que cela est destiné, malheureusement, selon un certain nombre de considérations supéculturelles, à la gente féminine. Mais on peut revenir sur cette question. Donc, tout simplement pour dire que la crise climatique en Afrique, elle est réelle et que l'Afrique a besoin de s'organiser pour faire face. Mais comment s'organiser si cela n'est pas fait dans un système de solidarité ou cela n'est pas fait dans un système de collaboration? C'est pour cela que nous, en tant qu'activistes, en tant que personnes travaillant sur la question climatique, nous disons que il faut aussi regarder le côté agricole ou le côté alimentaire de la question changement climatique. On a parlé de l'élevage industriel, comment cela est aussi quelque chose qui façonne les émissions de gaz à effet de serre. Il y a des travaux qu'on a fait en collaboration avec plusieurs acteurs qui montrent que l'élevage industriel a une part de responsabilité. Comment aujourd'hui les engrais qui sont utilisés ou qu'on souhaite utiliser pour pouvoir fertiliser les sols sont aussi un problème. Et nous, on a apporté des éléments comme la pratique de l'agroécologie qui vont permettre effectivement d'être des alternatives et vont pouvoir permettre. Donc, le secteur agricole, le secteur alimentaire est aussi un secteur qu'il faut regarder. Mais il faut le regarder pas dans l'objectif d'en faire la victime et donc de permettre aux multinationales qui sont dans le secteur industriel, de l'agriculture industrielle, de venir se positionner et pouvoir juste avoir des parts de marché. C'est des réflexions qu'il faut mener. La crise alimentaire en Afrique va venir avec plus de fragilité. La crise alimentaire en Afrique va venir avec plus de maladies liées au climat qui vont se faire. Donc, il faut faire face. Et j'encourage et je suis content de cette dynamique de mobilisation en Afrique. De plus en plus de personnes, de jeunes Africains comprennent. Et les citoyens les plus simples comprennent. Et cela fait partie des luttes menées depuis pas mal de temps. Et au niveau de Grain, nous le faisons. Comment apporter de l'analyse de façon simple et de façon moins mystique. Parce que beaucoup de ces questions qui sont des questions, qui sont les questions climatiques, ont été façonnées de sorte à ce que le citoyen lambda ne puisse pas les comprendre. Et quand nous avons commencé à travailler sur cette question il y a 10 ans, quand vous entendiez des gens parler de changement climatique, vous pensiez que c'était, des hiéroglyphes ou c'était un discours vraiment hermétique. Mais aujourd'hui, nous avons décidé dans la dynamique de mobilisation de permettre à tout le monde de pouvoir comprendre afin de s'engager que la section climatique à voir avec l'économie, la question climatique à voir avec le social, elle n'a pas uniquement à voir avec l'environnement. Donc, il faut une multitude de personnes, il faut une solidarité, ne serait-ce que même dans la compréhension de ces questions-là. On a parlé des questions d'adaptation. Comment est-ce qu'aujourd'hui, il faut permettre à l'Afrique de pouvoir s'adapter et de faire face au changement climatique? Comment est-ce qu'il faut permettre aux Africains d'élaborer des politiques agricoles qui vont leur permettre de pouvoir contrôler l'agriculture, qui vont pouvoir permettre d'utiliser moins d'énergie fossile dans les transports, moins d'énergie fossile pour faire, comme je dis, les engrais, parce que pour pouvoir faire les engrais, on utilise aussi des énergies fossiles. Donc, c'est un double impact sur la question environnementale. Donc, il y a toutes ces questions et nous sommes contents qu'il y a des groupes de mobilisation qui vont et qui font ce travail-là. Bien avant un certain nombre de leaders aujourd'hui qui se positionnent. C'est vrai que pour beaucoup d'Africains, il est difficile d'avoir peut-être accès à cette publicité souvent, mais un travail concret est fait par des acteurs de façon concrète sur le terrain pour pouvoir continuer à porter ces questions-là, qui sont des questions de survie pour les Africains. Il ne s'agit pas juste de faire du bling-bling, mais pour beaucoup d'Africains, c'est des questions de survie. Je vous le dis, il n'y a pas longtemps, j'étais dans des villages en Côte d'Ivoire, rencontrer des femmes agricultrices, discuter avec des jeunes paysans. Ils vous expliquent la réalité des changements climatiques. Et donc, cela, on ne pourra pas l'éviter. Donc, il faut se concentrer sur cela. Il faut avoir des politiques d'adaptation qui vont vraiment en harmonie avec les réalités, dit aux paysans que l'agroécologie est la solution, qu'il faut travailler à ne pas dépendre des produits chimiques, il faut travailler à pouvoir maîtriser l'eau, il faut trouver des techniques agricoles qui permettent de pouvoir faire face au moment de sécheresse, il faut faire du paillage pour pouvoir permettre aux plantes de continuer à avoir de l'humidité pour pouvoir se développer. Donc ce sont des questions qu'on aborde chaque jour et qu'on continue d'aborder. À côté de tout ce qui est mobilisation aussi internationale, dont on a besoin, parce que comme je l'ai dit, c'est dans la solidarité qu'on peut faire face à la question des changements climatiques.
Avant de terminer, alors j'invite déjà tous ceux qui nous écoutent à aller voir votre site et votre page Facebook et s'abonner à votre newsletter. Il y a vraiment des rapports très, très intéressants avec des personnes qui témoignent de différents endroits dans le monde et puis une collaboration qui donne des analyses et des rapports très instructifs. Aujourd'hui, les sujets sur lesquels vous êtes là en ce moment, les sujets les plus d'actualité, qu'est-ce que c'est?
Présentement, on réfléchit énormément sur l'expansion des supermarchés. Oui, en Afrique aussi, parce qu'on a vu comment cela arrive avec aussi des changements des habitudes alimentaires. Et pour nous, c'est vraiment important. Donc, la question des supermarchés, l'expansion des supermarchés, est pour nous une question vraiment sur laquelle nous allons continuer d'analyser. Nous allons continuer d'apprécier.
Excuse-moi, quand tu dis des supermarchés, est-ce que là encore, ce sont des supermarchés dont les propriétaires sont dans les pays du Nord ou les pays qui vous ont déjà imposé pas mal de choses sans tenir compte de vos réalités, ou est-ce que ce sont des créations locales?
Il y a de tout, parce que comme je l'ai dit, du moment que ça a un impact sur les habitudes alimentaires ou est en train de forcer une mutation ou une transition vers un type d'habitude alimentaire, nous posons des questions. C'est-à-dire, effectivement, pour la grande majorité présentement, quand vous allez en Afrique du Sud, quand vous allez dans un certain nombre de pays, ces supermarchés ou ces supérettes, en tout cas, ces grandes surfaces, pour certains sont détenues par exemple, peut-être des personnes ou des multinationales extérieures au continent. Mais quand vous arrivez dans un certain nombre de pays comme la Côte d'Ivoire ou même d'autres pays, vous allez voir qu'il y a effectivement des intérêts nationaux qui sont présents dans les chaînes de grande surface. Pour le moment, effectivement, on va voir qu'il y a, par exemple, des multinationales qui sont en dehors des pays et qui contrôlent des supermarchés. Mais comme je l'ai dit, la problématique fondamentale, au-delà de la perte de revenus pour nos États, parce qu'effectivement, il faut nourrir les actionnaires, comme on le dit. Donc, on fait du profit pour envoyer l'argent, par exemple, en dehors du pays où on a fait cet argent. Ça, c'est des questions, effectivement, économiques sur lesquelles on revient, on pourra discuter. Mais pour nous, en tant que Grain, un des éléments premiers, c'est la transformation des habitudes alimentaires et l'impact sur la souveraineté alimentaire. On a parlé des produits ultra transformés. On a parlé peut-être pas trop de la perte d'emplois. Nous connaissons un groupe au Sénégal qui a lancé une campagne qu'on appelle Auchan Dégage, parce que Auchan est un des supermarchés qui est présent là-bas. Mais en discutant avec ces acteurs-là, il y a 2 ans quand j'étais au Sénégal, je me suis rendu compte que les petits commerçants sénégalais qui sont dans les marchés de Sandaga, qui sont dans les marchés de Medina et autres, de par les taxes que ces petits commerçants-là reversent à la municipalité, peuvent être considérés vraiment comme contribuant énormément à l'économie sénégalaise. Mais imaginons que ces petits commerçants-là disparaissent. Je ne parle pas ou je ne commence même pas à parler des petits paysans. Ceux qui ne peuvent pas, par exemple, continuer à pouvoir vendre sur nos différents marchés locaux parce qu'il y a des produits ultra transformés de mauvaise qualité souvent qui sont importés et qui sont déversés sur le marché. Quand vous discutez avec un paysan, par exemple, qui fait du riz local en Côte d'Ivoire ou au Bénin ou au Togo, il vous dira que pour pouvoir produire du riz local, pour pouvoir le mettre à la disposition de ma communauté, l'effort que j'ai produit peut-être me permet de le vendre à 2 euros. Disons cela, c'est un exemple que je donne. Mais le riz qui a été importé peut-être depuis la Thaïlande ou la Chine, de par les accords de partenariat économique qui existent et tout ça, peut venir sur le même marché et être vendu à 1 euro. Mais moi, en tant que paysan, riziculteur ivoirien ou riziculteur togolais, je ne peux pas faire face à cette réalité. Et donc, c'est la perte aussi des paysans, et on a parlé des suicides des paysans. C'est vrai qu'il n'y a pas d'études peut-être récentes en Afrique, mais on le voit, comment est-ce que dans un certain nombre de pays, comme en Inde et dans d'autres pays, les cultivateurs, même en Europe, les cultivateurs, les paysans sont amenés à se suicider parce qu'ils croulent sur des dettes, ils croulent sur une impossibilité de continuer leur agriculture, leur activité économique. Donc, pour nous, la question des supermarchés et en lien avec beaucoup de problématiques que je viens de soulever, et nous allons continuer à la regarder. Aussi, une autre question qui se découle, c'est la question de la biofortification. Nous avons parlé des semences qui sont aujourd'hui contrôlées d'une certaine façon, mais aussi on a ce phénomène de biofortification dans le domaine alimentaire. Vous allez peut-être voir des publicités dans nos différents pays où on parle de la tomate concentrée en zinc, de la patate, en Ouganda, qui est avec des additifs. Donc, cette question-là qui découle de la biotechnologie est une question aussi qui nous intéresse. Et bientôt, nous allons encore essayer d'en discuter à travers nos analyses. Et donc, c'est des pistes sur lesquelles nous sommes. Nous allons toujours continuer aussi à regarder l'expansion de l'huile ou du palmier à huile en Afrique qui vient avec aussi modification, parce que c'est aussi lié à la question des supermarchés. Parce que l'huile de palme de mauvaise qualité ou de moindre qualité qui de plus en plus est développée à travers les nouvelles variétés qui sont développées, parce que le palmier à huile, on l'a connu aussi avec, si on peut dire ce qu'on a appelé le palmier à huile traditionnel. Mais de plus en plus, il y a eu des changements qui ont fait qu'on a des variétés qui produisent plus d'huile, mais dont l'apport nutritionnel est aussi à questionner. Et cela, comme on le dit, cette huile de palme.
Ah ben c'est comme c'est dans ça, l'élevage intensif, ça. Donc où on booste pour que les animaux grandissent plus vite, beaucoup plus vite, en quelques semaines au lieu de quelques mois, mais finalement, là, au niveau zéro, nutritif, on se retrouve avec
donc,
des...
Toute cette question-là, ces questions-là qui sont en lien au niveau de l'alimentation, sont des questions qui nous intéressent et sur lesquelles on va continuer à travailler. Et bien évidemment, la question de l'agroécologie, pour pouvoir aussi lutter contre les changements climatiques. Parce que pour nous, la question agroécologie n'est pas simplement des méthodes et tout ça, mais c'est aussi un moyen d'atténuer et un moyen de s'adapter à la question du climat, de la crise climatique. Donc, ces questions-là vont encore nous emmener peut-être encore 30 ans dans le futur.
Tu es là depuis quand tu es dans...
Depuis 2014. Mais je t'ai déjà engagé sur ces luttes sociales, environnementales. En fait, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de mon engagement, mais effectivement, je ne trouve pas que peut-être c'est ça le point. Mm. Mais en Côte d'Ivoire, depuis 2006, qui a été une année importante parce que nous avons connu un déversement des déchets toxiques en 2006 qui a causé énormément de dégâts. Et c'est à partir de là qui a été le départ d'un engagement en tant qu'environnementaliste, en tant qu'activiste. Donc, puis de la question climatique.
Qui avait été déversé, comment tu veux
non,
dire,
non,
un accident dit,
on a
de...
un bateau qu'on appelait le Probo Kuala, qui avait été affrété pour venir déverser des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Donc, on s'est retrouvé un matin intoxiqué par des produits toxiques qui avaient été déversés. Et ma maison n'était pas loin d'un des sites qui avait été fortement impacté. Donc, j'en ai été malade, certaines personnes de ma famille, tout ça. Et c'est là que la question a encore ressurgi. Donc, je veux dire que je suis avec Green depuis 2014.
Et tu t'es engagé
oui,
donc,
bien
à
avant
ce moment-là,
cela, j'étais
oui.
engagé déjà en tant qu'environnementaliste, en tant que, qu'activiste sur la question changement climatique.
Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à Guérin pour terminer
bonne
sur
lutte.
Une note positive ?
Oui,
bonne lutte. Eh bien, je vous souhaite donc une bonne lutte au pluriel, hein, parce que vous êtes un peu sur tous les fronts. Bravo pour tout ce que vous faites et puis félicitations à tous ceux qui sont avec vous, autour de vous, en Afrique et aussi dans les autres endroits du globe.
Merci,
bonne continuation.
Anne. Et on va être disponible.
Merci beaucoup.
Merci.
Bonne continuation. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.